Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien sur Radio Présence. Nous sommes ensemble pendant une heure jusqu'à 20h pour débattre avec mes chroniqueurs de l'actualité sportive de la semaine, le tout accompagné de sportifs de haut niveau. Au programme aujourd'hui, les mythiques maintenant, ils sont mythiques, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Didier Rubio vous donnera l'agenda, les conseils santé. Pas d'agenda cette semaine en l'absence malheureusement de Lucas Cerdic, le débat avec le rugby. Et enfin, nous recevrons Émilie Andéol, championne olympique 2016. De judo avec nous ce soir, celui qui adore le basket et le football, mais qui a un physique de jockey, Mehdi Guillonneau. Bonsoir Mehdi.
Bonsoir Jean.
Lui prépare le marathon de Toulouse, mais ressemble plus à un haltérophile pour l'instant, Timothée Rouvière.
Bonsoir Jean.
Et enfin, le suivant, le chroniqueur, viendrait sans problème au marathon, mais uniquement pour le cocktail de bienvenue, ouais. Maxime Brossard.
Ouais, salut, vive l'apéro.
Avec modération, bien évidemment.
Jamais.
Et notre invité est déjà là, nous fait le plaisir d'être dans les studios. Émilie Andéol, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur Radio Présence. On en avait un petit peu parlé, c'est pas votre première radio en étant championne olympique. Les médias...
Oui, c'est bon, maintenant j'ai l'habitude.
C'est habitué. Messieurs, on est le 1er avril.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Pour le 1er avril, rien.
Comme des poissons.
J'ai voyagé.
Ouais,
je rentre de Barcelone.
C'était bien. Ah, derby, oui. Derby de Barcelone en plus ce week-end.
Et malheureusement, ça. Je n'ai pas été. Je me suis rabattu sur l'arrivée du Tour de Catalogne.
C'est pas mal ça.
Joli spectacle sur la colline de Montjuïc, très sympathique.
Ça va. Bon.
Ouais, très sympa. Va.
Bon, il y a pas Joséphine Ange Gardien ce soir. C'est la semaine prochaine.
Oh
il faut
là
pas
là.
Oublier l'inédit la semaine prochaine.
Ben non, on l'oublie pas. Une semaine avant,
vous êtes là pour nous le rappeler.
Vous m'avez dit ça, j'ai cru que c'était une blague comme c'était le 1er avril, mais non, c'est bien vrai quoi.
Ouais. On va voir. Jean aime toujours Minimati.
Bah oui, mais oui. Tout
indémodable. On change pas.
Vous regardez Joséphine Ange Gardien ou pas du tout?
Ça m'arrive, c'est malheureux.
Ah voilà.
Vous n'êtes pas seul, Jean.
Voilà, quand mon neveu est là, je regarde. Mais sinon, non.
Moi aussi, il y a mon neveu qui est là.
Ouais, bien sûr. On y croit, carrément.
Je regarde aussi. Sinon, vous avez passé un bon lundi début d'avril.
Parfait, ouais. Oui, il fait beau.
Il fait profite. Hein.
Voilà, la chance d'être à Toulouse.
Oui, carrément.
Et oui.
Bon, parfait. Tout le monde est en place. On peut démarrer maintenant avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule.
Comme chaque lundi, vous nous parlez d'un événement sportif qui vous a marqué, un exploit, une déception. On va commencer, alors on est obligé de commencer avec ça, je me tourne vers vous Timothée Rouvière. On va prendre le ballon ovale, c'est une évidence, c'est un coup de cœur, un coup de j'adore entre guillemets sur la performance XXL du Stade Toulousain victorieux du Racing 92 en quart de finale de la Coupe d'Europe.
XXL, c'est le cas de le dire, hein. Toulouse qui a remporté son quart de finale tout simplement, 22-21. Un match serré, un match très très serré, avec du jeu, des essais, des joueurs fantastiques, une ambiance folle et surtout un scénario assez dingue parce que Toulouse était réduit à 14 avec le carton rouge de Zach Holmes à la 20e minute de jeu. On se disait voilà, ils vont prendre le bouillon. On voyait le Racing qui reprenait confiance, surtout dans un stade qui est un petit peu difficile à jouer, c'est une pelouse synthétique donc les repères ne sont pas les mêmes, et Toulouse qui a encore impressionné avec ligne de trois quarts impressionnant. Je pense à Lucas Tauzin qui était même pas titulaire et qui finalement se retrouve titulaire à la place de Yohan Huger blessé. Un mélange entre l'expérience, la jeunesse et de la fougue, et surtout après avoir vu ce match de rugby, je me dis mais le rugby français va bien, hein, donc c'est un petit peu difficile à dire quand on regarde notre équipe de France.
On va en parler du rugby français dans le débat tout à l'heure.
Oui.
Mais voilà, la question, vous avez parlé du carton rouge. On est d'accord, messieurs, pour dire que sans le carton rouge, il n'y a pas match. Finalement, le carton rouge a fait du bien pour le suspense, parce que sur les 22 points du Stade Toulousain, il y a 19 points qui ont été marqués à égalité numérique avant le carton rouge et pendant le carton jaune. On le rappelle, le carton jaune au rugby, c'est 10 minutes dehors. Carton jaune pour le Racing 92. Il n'y a pas débat sans le carton rouge, on est d'accord.
C'est vrai qu'il n'y a pas débat, mais voilà, ce carton rouge a permis de rééquilibrer un petit peu les comptes et surtout Toulouse, Hugo Mola qui fait un coup stratégique assez dingue en sortant François Cross. On se dit, ben voilà, au niveau de la mêlée, ça ne va pas aller. Qui laisse sa ligne de trois quarts qui est fidèle à sa réputation. Sébastien Bézi qui rentre et qui termine deuxième meilleur plaqueur, qui fait une performance extraordinaire. Et Toulouse qui assure et qui est encore qualifié en demi-finale et qui est surtout en tête du top 14. Donc là, il va falloir faire pas un choix pour les Toulousains, mais ça va être. être beau pour la suite de la saison.
Maxime Brossard, ils vont retrouver le Leinster qu'ils avaient plus ou moins volontairement évité en quart de finale.
C'est ça.
Le choix est payant, finalement.
Ils ont fait un choix payant dans le sens où ils avaient fait exprès de pas prendre le bonus contre Bass.
En phase de poule. Ils prenaient le Leinster en quart.
Et donc là, ils ont réussi à... Ben, ils se sont donné raison finalement, en fait, parce qu'on était tous un peu sceptiques sur ce plateau de ce choix d'aller au Racing voilà, à l'extérieur. Mais bon, finalement ils ont eu raison. Et puis ils vont tomber contre le Leinster qui est inévitable à mon avis. C'est la meilleure équipe d'Europe. Donc si vous voulez gagner la Coupe d'Europe, vous êtes obligé de les battre, que ce soit en demi
ou en finale. Ça va être la belle parce que le Leinster et Toulouse ont été dans cette phase de poule cette année en Coupe d'Europe. Une victoire pour le Stade Toulousain, une victoire pour le Leinster. Donc c'est la belle, qui plus est en demi-finale de Coupe d'Europe, c'est fantastique.
Ça va être assez compliqué parce que, comment dire, j'ai regardé quand même le Leinster-Ulster, j'ai regardé le replay en fait, et au niveau de l'intensité, j'ai eu l'impression que ça allait beaucoup plus vite, il y avait beaucoup moins de phases lentes que ce Racing Toulouse. On est tous impressionnés, on dit waouh, ce qu'a fait Toulouse, c'est incroyable, mais il faut voir que le Racing a joué très lentement. Et bon, finalement, ça va être une belle opposition. Hein. J'attends de voir ce match avec impatience. J'attends de voir si les Toulousains vont réussir à s'élever au niveau des Irlandais, comme ce qui peut se passer finalement dans le tournoi Destination. Quoi.
Les demi-finales, c'est le 20 et 21 avril 2019. Timothée Rouvière.
Oui, moi je suis d'accord avec ce que dit Maxime. C'est vrai que la performance toulousaine est belle et magnifique. C'est une belle victoire. Mais après, faut quand même se dire que le Racing n'a pas fait un match super. Il y a eu beaucoup d'approximations. Il y a des joueurs qui n'ont pas forcément été au niveau. Il y a des pertes de balles répétées. Donc, oui, la victoire de Toulouse est belle, surtout à 14 contre 15. Mais ça va être très très dur au Leinster. Surtout que c'est au Leinster. Donc,
ce ne sera pas la même équipe que le Racing, c'est sûr.
Ça,
c'est sûr.
Il y aura un mois titanesque pour le Stade Toulousain. Ils vont jouer contre le Racing, contre le RC Toulon. À Marseille, au Stade Vélodrome. Ils vont recevoir Clermont au Stadium de Toulouse avant de faire une demi-finale de Coupe d'Europe. Donc c'est un mois d'avril absolument titanesque. On parle de stade, le Vélodrome, on parle du Stadium. On va partir en Angleterre pour parler d'un nouveau stade. C'est le coup de cœur de Maxime Brossard, le nouveau stade de Tottenham qui est, il faut le dire, magnifique.
Mais oui, en fait, voilà, j'ai pas trop l'habitude de faire des coups de cœur sur le foot, mais là, j'ai été obligé de retourner ma veste, on va dire, quand j'ai vu les images de ce nouveau stade. Ouais, je sais que vous êtes supporter d'Arsenal, mais justement, je vais en parler un peu dans ce coup de cœur. Quand j'ai vu donc le stade de Tottenham, je me suis dit qu'il était quand même qu'il était magnifique, tout simplement. J'ai eu la chance de voir les premières images parce qu'il y avait un match d'inauguration entre les anciens de Tottenham et les anciens de l'Inter, qui était assez rigolo le match d'ailleurs. donc voilà, c'est un nouveau projet qui avait été lancé en 2016, donc pour remplacer White Hart Lane, qui est le stade historique de Tottenham.
Arsenal a trop gagné là-bas, donc c'est pour ça qu'il
a été lancé. Oui, il datait de 1934, le stade de White Hart Lane. Et donc là, nouveau stade qui arrive pour Tottenham, 2000 places, avec la possibilité notamment d'accueillir des matchs de NFL. Donc il va y avoir beaucoup plus de délocalisation, donc du point de vue du business c'est aussi intéressant,
bien évidemment.
Et donc voilà, c'est une toute nouvelle histoire à écrire pour Tottenham, qui est une équipe qui monte de plus en plus dans les équipes du on va dire maintenant du Big Five, je vous dirais, plus que le Big Four, on va voir comment ça va se passer. Ils vont l'inaugurer mercredi contre Crystal Palace.
Et justement, on va parler d'Arsenal par rapport à l'Emirates Stadium.
Exactement.
Est-ce que on n'est pas en train de perdre la fibre des stades anglais où ils sont au bord de la pelouse? Là, ça commence à devenir un peu plus.
C'est banal. C'est un des problèmes en fait que j'avais envie donc de soulever avec ce coup de cœur, c'est qu'en fait il y a aussi un challenge vraiment pour les supporters de Tottenham et les dirigeants de Tottenham, c'est de réussir à garder la ferveur. Ce que n'a pas réussi à faire Arsenal en quittant Highbury et en allant dans l'Emirates Stadium, puisque pour rappel, l'Emirates Stadium est surnommé la bibliothèque en Angleterre. C'est pour vous dire qu'en fait c'est devenu simplement un argument commercial et qu'il n'y a plus du tout de vrais supporters dans les tribunes d'Arsenal.
Très peu d'ambiance maintenant dans les stades modernes, Manchester City.
Beaucoup de touristes, c'est ça.
C'est ça, Manchester City, West Ham, Arsenal, ce sont des stades qui ont été refaits. Oui. Et c'est vrai qu'il n'y a plus l'ambiance anglaise, quoi. Timothée Rouvière.
Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Et on pourrait donner l'exemple de San Siro en Italie, qui va peut-être être détruit. C'est quand même un stade mythique. Je pensais qu'on allait en parler ce soir. Mais San Siro, qui est un stade mythique pour les 2000 ans. Et voilà, on parle de le détruire. Donc c'est vrai qu'on est sur des grosses infrastructures comme ça, où il n'y a plus que du sport. Et c'est assez triste.
Emilien Andéol, alors dans le judo, ce n'est pas des stades à 60 000 personnes. Mais ça fait quand même bizarre de rentrer sur le terrain mains sur le tatami, avec on sent la ferveur. Ou à contrario, ça arrive des fois de jouer devant personne.
Oui, ça arrive de combattre, pas jouer, combattre.
Pardon.
De combattre contre personne. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Nous, on a quand même la chance, grâce au tournoi de Paris, d'avoir la salle la plus remplie. Mmh. Sincèrement, 14 000 supporters. Donc, j'avoue que ça pousse. Hein. Ça pousse. Mmh. C'est la première fois, ça fait bizarre. Mmh. Parce qu'on n'a pas cette habitude, justement. Donc, la première fois, ça fait bizarre qu'on arrive à Bercy. Mais pour les phases finales, on a l'impression d'avoir une troisième personne qui porte. Ah ouais, c'est
peut-être pour ça qu'on fait du sport de très haut niveau.
C'est pour avoir ces sensations. Moi, je sais, quand j'ai gagné Bercy, c'était le public, la ferveur, c'était quelque chose d'énorme. Et à côté de ça, par exemple, à Tokyo, il y a un grand slam aussi, où à Tokyo, c'est le pays du judo. La salle est moins remplie.
Il n'y a personne.
Ouais, il y a moins de monde. Donc, ça fait la première fois, ça fait bizarre. On se dit,
on va à Tokyo, c'est tranquille, il y aura du monde.
Il va y avoir du monde. Non. Il y a du monde encore pour les phases finales, mais sinon, non. C'est à Paris. C'est à Paris où c'est plus rempli.
Hier, il y avait beaucoup de monde au stadium. C'est votre coup de cœur, coup de cœur, coup de gueule, entre les deux.
On va dire entre les deux.
La défaite du TFC, plutôt logique, face au Paris Saint-Germain. Une défaite contre une équipe bis du PSG qui a marché.
Ouais, une défaite 1-0.
Mais on a vu un bon Toulouse, il faut quand même le dire.
On a vu un Toulouse, moi je dirais correct. Parce qu'on a
cohérent.
Cohérent, exactement. Mais qui n'a peut-être pas fait le nécessaire pour les bouger plus que ça et créer un exploit. Parce qu'en général, quand même, battre le PSG, pour les clubs de Ligue 1, il faut faire un exploit. On a l'impression que c'était juste pas possible, malgré quelques occasions. Il y a une tête de Christopher Julien, un bel arrêt d'Alphonse Areola et aussi un face-à-face face à Yaya Sanogo. Donc oui, les Toulousains ont essayé de faire le job, mais il en a manqué pour ne serait-ce qu'accrocher un match nul.
Est-ce que le fait d'avoir autant d'absents côté parisien, alors il y avait quand même Thiago Silva qui était sur le banc, mais il y avait Marquinhos, Kimpembe, bien évidemment le buteur Mbappé, mais il y avait beaucoup d'absents, Neymar, Cavani, Di Maria, Draxler, Meunier, Daniel Alves, il y a quasiment toute l'équipe du PSG. Est-ce que le TFC peut nourrir de regrets dans le sens où, entre guillemets, il n'y a personne en face par rapport à ce qu'on est habitué, il faut jouer le coup à fond, quoi.
Moi je pense que voilà, même s'il y avait beaucoup d'absents comme vous le dites, même si Paris depuis la défaite à Manchester est un petit peu en roue libre et ne sait pas trop quoi aller chercher en fin de saison, je pense qu'ils ont tout simplement fait une leçon de réalisme à Toulouse et voilà, il n'y avait pas grand chose d'autre à faire et que Toulouse n'a pas les armes pour tout simplement rivaliser contre ces équipes, même si elles sont amoindries.
Quand il y a des champions du monde en face, de toute façon, il n'y a rien à faire. C'est ce qu'a dit Alain Casanova à la fin du match. Il y a eu un extraterrestre en face et puis on serre la main et voilà.
Ouais, il y avait Mbappé, oui. Mais moi, j'ai du mal un petit peu avec ce discours un peu franco-français de se cacher derrière ça.
Et Emilie Andel semble être d'accord.
Elle acquiesce à côté de moi. Quand tu joues le PSG, dans tous les cas, tu es censé marquer 0 points. Donc joue. Et oui. C'est pas même l'équipe alignée, il y avait quand même une équipe avec beaucoup plus de milieux de terrain qu'habituellement, etc. Le signal qui était envoyé aux spectateurs et même à ses propres joueurs de la part d'Alain Casanova, pour moi, n'était pas forcément bon sur ce match-là. Et ça s'est vu, parfois, Yaya Sanogo qui jouait avant-centre hier soir, il défendait dans ses 30 mètres.
Mmh. Voilà, oui, souvent ça arrive.
C'est arrivé souvent et... Je trouve que l'image n'est pas forcément positive. Et moi, je pense qu'il y avait moyen de le faire. Et pour moi, ils ne s'en sont pas donné les moyens.
Vous êtes d'accord avec ça, Emilien? Il y a un problème psychologique, entre guillemets, quand on affronte en France, que ce soit dans le foot, dans le rugby, dans le handball ou n'importe quoi, des gros clubs, des gros adversaires.
Oui, on se met en dessous. Alors que non, si c'est ça, ça ne sert à rien de monter. Ça ne sert à rien de monter sur le terrain. Et on peut dire, on a perdu d'avance. On va faire autre chose. Mais ça ne sert à rien. Comme je dis, moi, si chaque fois, au début, quand j'ai commencé, quand je prenais la numéro 1 de ma catégorie, par exemple, au jeu, j'ai pris Ortiz en finale ou même la championne du monde en demi, je me suis dit, c'est bon, t'as perdu. Elles sont les numéros 1 et 2 devant toi. Monte pas. Non. À un moment donné, je me suis dit, on y va. Effectivement, sur le papier, t'es pas la favorite, mais on ne sait jamais. Si tu n'essayes pas, c'est sûr que tu n'y arriveras pas. J'ai essayé, j'ai gagné. Donc voilà, on ne sait jamais. Si Toulouse, peut-être Toulouse aurait pu gagner le PSG en se donnant à fond. On ne sait pas.
on parle de judo. Je me tourne vers vous, Maxime Brossard. On va voir le cousin éloigné du judo, du très éloigné,
très éloigné,
très très éloigné. On va dire que c'est un sport de combat un peu comme comme le judo.
C'est la même famille.
Voilà, c'est la boxe. Coup de cœur sur un boxeur toulousain qui a échoué à rien d'un titre mondial.
Oh, à rien, peut-être pas, mais malheureusement il s'est blessé. Ouais, c'est Doudou Nganou, le Toulousain de 37 ans, qui a défié le terrible Ukrainien Govzik. Ah, il a un nom un peu bizarre, ouais, mais il est aussi terrifiant, cet Ukrainien, puisque, pour rappel, c'est lui qui a envoyé Adonis Stevenson, le boxeur canadien. Il l'a envoyé dans le coma il y a 2 mois. Il vient tout juste de se réveiller, le Canadien, là. Donc, il y avait de quoi avoir peur pour Doudou Nganou en affrontant ce terrible boxeur de l'Est.
Moi, là, par contre, je monte pas, moi.
Ah oui, il y a de quoi pas monter, je vous assure que...
Là, par contre, je vais pas sur le ring.
Ah, oui. C'est là que, justement, Émilie a très justement rectifié. Au football, au rugby, on joue dans les sports de combat, on combat. C'est pas un jeu. Donc, ouais, en fait, voilà, il a offert une bonne résistance, Doudou Nganou. Il a fait 5 rounds. Il était plutôt, on va dire, dans les clous pour même peut-être... postuler à une victoire, on sait jamais, puisque ça pouvait jouer au point. Il n'était pas ridicule, et puis finalement il s'est blessé au mollet, malheureusement, et donc voilà, il a dû abandonner au 5e round parce qu'il pouvait plus, voilà, il pouvait plus boxer. C'était même dangereux, quoi, au niveau de ses déplacements. Donc c'est Govzik, l'Ukrainien, qui a conservé sa ceinture WBC des mi-lourds. Et pour Ngundu, la suite, il a 37 ans, donc c'est dommage, parce que c'était peut-être une sortie rêvée pour lui que de faire ce dernier combat. Et là, à savoir, est-ce qu'il va continuer, est-ce qu'il va prendre sa retraite. Voilà, mais bon, en tout cas, il faut saluer quand même le courage d'être monté sur le ring pour affronter un tel adversaire.
Je me tourne encore vers la sportive de haut niveau. Quand on se blesse à 37 ans, c'est compliqué de revenir à très haut niveau. Ou c'est pareil, c'est une question de mental. On parlait du mental tout à l'heure.
Après, ça dépend des gens. Ouais, je pense que c'est une question de mental. Ça dépend si effectivement, au moment de se blesser, il sentait déjà que c'était la fin, donc peut-être naturellement il va arrêter. Mais s'il sentait bien et que pour lui, il pouvait encore continuer pendant quelques années encore, il va revenir. Ça, c'est sûr, il va revenir. Par contre, c'est vrai que s'il sentait que c'était la fin et que la blessure va vraiment l'handicaper, il va arrêter. Il va se dire bon,
c'est fini, quoi.
Voilà, c'est fini, ouais. c'est comme ça.
Donc, voilà, tout simplement. Et comme ça, on peut se reposer et c'est plus facile à gérer la
là,
blessure juste
derrière. Là, c'est vraiment une question de mental et sur comment il avait déjà vu sa fin.
Ouais, toi aussi, ouais.
Voilà.
Et comme ça, on peut s'asseoir et on peut faire de la Formule 1. Je me tourne vers vous, Timothée Rouvière. Un coup de cœur sur la pole position ce week-end de Charles Leclerc au Grand Prix du Bahreïn. Malheureusement, il n'a pas gagné suite à un problème de moteur, mais c'est pas ça, hein.
Alors, Charles Leclerc, officiellement, il est monégasque. Mais oui, moi, j'ai envie de dire qu'il est français.
Quand
il
Monaco joue dans le championnat de France.
Voilà, ouais, c'est ça. On est d'accord. Formidable Charles Leclerc, voilà, qui est passé chez Ferrari cette année. Ça avait été, on va pas dire compliqué, le premier Grand Prix de la saison, mais il avait dû, de par des consignes d'équipe, il avait pas pu vraiment viser la victoire. Mais là, il gagne les premiers essais libres, les troisièmes. Il fait la pole position devant les Mercedes, devant Sébastien Vettel.
Record du tour,
voilà.
C'était pour lui.
Impressionnant, rêvé. Et là, à 10 tours de l'arrivée, casse moteur. Donc bon, il sauve quand même 3ème place sur le podium. Mais je pense qu'on a cité la naissance d'un grand champion. Alors Vettel n'est pas encore remis en cause, mais il faudrait qu'il fasse attention à Sébastien Vettel. Et c'est une belle promesse pour le sport automobile français.
Et on va voir s'il va confirmer le 14 avril, ce sera le Grand Prix de Chine. Et là, il faut gagner ce Grand Prix. Pourquoi ? C'est tout simplement le 1000ème Grand Prix, compte chiffre nombre rond. Le 1000ème Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Là, il faut poser son nom sur le palmarès. Merci messieurs, nous on se retrouve dans moins de 4 minutes avec les conseils santé de Didier Rubio. À tout de suite.
Say my name if you love me, let me. Let go, come on. Escucha como digo tu nombre. Desde Medellín hasta Londres. Cuando te llamo la mala responde. No pregunta cuándo, solo dónde. Te dejas llevar de lo prohibido, eres adicta. Una adicción que sabes controlar. Y te deja llevar lo más caliente en la pista. Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo.
Say my name, if you love me, let me hear you. Say my name, I am dying to believe you.
C'était David Guetta sur Radio Présence.
Sportez-vous bien, l'instant santé.
Le retour de la chronique santé sur Radio Présence avec vous, Didier Rubio. Cette semaine, on va parler de suivi sportif. Il y a deux semaines et trois semaines, on avait parlé de l'après-marathon, l'après-effort physique. Donc là, on va continuer un peu avec le suivi du sportif, tout simplement. Qu'est-ce que c'est ?
Bonsoir Jean, c'est avec plaisir qu'on se retrouve. Hein,
oui, ça faisait longtemps.
Ouais. Les sportifs, il faut les suivre, comme on dit, sur le plan médical et paramédical. Et de fait, tout ce qui concerne la performance et la santé, la nutrition et la diététique est un facteur de performance. C'est-à-dire que... je suis une pierre à l'édifice, par exemple, sachant que, bien sûr, il y a toute la préparation physique. On peut ajouter la kinésithérapie, l'ostéopathie, la podologie. Et j'en oublie certains, c'est certain. Mmh. Voilà. Mais pour ce qui me concerne, la diététique et la nutrition va être un facteur de performance. C'est-à-dire qu'il va contribuer à faire progresser le sportif dans sa pratique et éviter peut-être des blessures prématurées ou éviter, par exemple, un syndrome de surentraînement. C'est-à-dire quelqu'un qui va se fatiguer prématurément. Donc l'idée, c'est que tout ce que l'on va appeler l'entraînement invisible, bon là maintenant les préparateurs physiques, les coachs et autres savent très bien ce que c'est-à-dire tout ce qui contribue à la performance et qui n'est pas purement de l'entraînement. Le sommeil, par exemple, l'alimentation, tout ce qui est massage, étirement... ou autre.
Le suivi d'un sportif, c'est juste primordial finalement pour un joueur.
Oui, après les grands champions et les grands sportifs, la composante génétique est évidente. C'est, si on prend Teddy Riner par exemple,
qui est 10 fois champion du monde, double champion olympique.
La composante génétique, elle est tellement évidente là-dedans. Mais les très très grands champions ont intégré les facteurs de performance. Quand on voit Ronaldo maintenant, pas tout jeune, quand on voit les performances qu'il produit, on peut se dire que ce gars, très certainement, il a intégré tous les paramètres de la performance, notamment la nutrition, le sommeil et tout ce qui fait qu'il est très rarement blessé.
Ils sont rarement blessés.
Alors, juste aussi pour ne pas oublier de dire que c'est pas forcément la diététique qui va faire gagner les gens.
Mais ça peut les faire perdre.
Ça peut les faire perdre et en tout cas, ça les fait progresser. S'ils travaillent bien et s'ils travaillent beaucoup, par exemple.
On le dit souvent, c'est votre métier, vous, suivre les sportifs. Justement, vous avez déjà suivi, sans donner des noms, bien évidemment, des footballeurs, des rugbyman, des handballeurs. Mais quel est le lien que vous avez avec le club ? Comment travaillez-vous avec un club où le joueur est sous contrat ? Est-ce qu'il y a des difficultés à ça ?
C'est jamais trop simple. Dans les grands clubs, évidemment, il y a des staffs très étoffés. Il faut faire sa place un peu, des fois. Donc, par la compétence, ça, c'est le mieux. Et il y a des staffs avec des équipes. Et lorsque la décision a été prise d'ajouter le paramètre nutrition, par exemple, dans la prise en charge des joueurs, par exemple, pour mon cas, ils vont m'appeler, ils vont me dire, est-ce que tu peux voir tel joueur ? Souvent, c'est si. Alors parfois c'est ciblé composition corporelle, on avait déjà fait une pastille là-dessus, je me souvenais, sur lui il faut qu'il perde du poids, lui il faut qu'il prenne du poids, j'essaie de leur amener autre chose en plus de ça, qui est toute la prévention des blessures, c'est-à-dire aussi limiter toute l'inflammation. L'inflammation articulaire, l'inflammation tendineuse, la protection musculaire, c'est-à-dire élongation, déchirure. Et la nutrition bien conduite, elle peut éviter d'aller vers des blessures, à mon avis, trop prématurées.
Didier Rubio, merci.
Avec plaisir, Jean.
On le rappelle, vous êtes diététicien et nutritionniste du sport, spécialisé en éducation thérapeutique. Vous travaillez également à mi-temps, hôpital des enfants et aussi en activité libérale dans le sport et la santé. Vous avez été formé en qualité de vie au travail et dans le sport. En plus, vous êtes conférencier et micronutritionniste. Vos coordonnées sont à retrouver sur Radio Présence.
Sportez-vous bien. Le débat.
Avec trois clubs français en demi-finale de la Coupe d'Europe, le Stade Toulousain en Champions Cup et Clermont et La Rochelle en Challenge Européen, le rugby tricolore est encore au rendez-vous des derniers carrés des Coupes Européennes. Messieurs, vous commencez à avoir l'habitude, on répond uniquement que par oui ou par non et ensuite on débat après. Tout simplement, est-ce une victoire pour le rugby français, Mehdi Guillonneau?
Compliqué. Exactement.
Oui, non, allez.
Honnêtement, oui.
Oui, Maxime Brossard.
Une victoire pour les clubs français, oui, mais pas pour le rugby français.
Et Timothée Rouvière?
Je vais répondre la même chose. Une victoire pour les clubs français, mais pas pour le rugby.
Vous dites oui, mais dit Guillonneau, c'est... il y a quand même trois clubs français en demi-finale de la Coupe d'Europe.
Pour l'image,
c'est
de...
toujours ça.
Oui, c'est ça. Pour l'image de la France, vu comment elle est super positive, on va dire, ces derniers temps, je suis ironique, bien entendu. Oui, ça fait du bien. Honnêtement, ça fait du bien. Et puis surtout, la manière dont ça s'est passé, on a parlé du Stade Toulousain, mais la manière dont tu as gagné La Rochelle, et encore plus la manière dont tu as gagné Clermont, qui a mis plus de 60 points.
La Rochelle a battu Bristol 39-15 et Northampton pour Clermont 61-38. C'est vrai que c'est des énormes scores.
C'est surtout ça, on a vu du jeu, quoi. Moi, pour avoir regardé une mi-temps et demie de La Rochelle et tout le match de Clermont, je me suis régalé. C'est du rugby un petit peu comme on aime le voir et comme on le verra, je pense, à l'avenir avec beaucoup de rythme et moins de passages au sol, moins longtemps en tout cas.
Maxime Brossard, le rugby, c'est l'inverse du football. C'est-à-dire que dans le football, la sélection nationale actuellement marche bien par rapport aux clubs français en Coupe d'Europe, que ce soit Rennes en Ligue Europa ou Lyon et Paris en Ligue des Champions. Par contre, à l'inverse, le rugby, c'est les clubs qui marchent et malheureusement, la sélection ne marche pas. C'est parce qu'il y a beaucoup d'étrangers dans les clubs, ça joue.
Déjà, oui, il y a un nombre étranger qui est quand même assez conséquent et qui fait que les jeunes Français n'ont pas totalement la possibilité d'exploiter leur potentiel. Après, ce qui est intéressant avec ces trois équipes qualifiées, c'est qu'en fait, elles ont envoyé un message aux autres clubs de top 14. C'est que les trois équipes françaises qui sont passées, elles sont passées en proposant du jeu. C'est-à-dire, c'est des équipes qui jouent, qui envoient du jeu, qui n'ont pas peur d'envoyer les ballons au large, qui ne se contentent pas de défendre et d'envoyer des coups de pied. Et justement, ils ont montré aux autres clubs français que l'avenir du rugby français, il passera par le jeu. Et pas par autre chose, pas par des très longues séquences où on va chercher à consommer les équipes adverses avec du jeu d'avant ou en s'appuyant uniquement sur la conquête. Donc voilà, là, ce qu'il faut retenir de ces trois qualifiés, c'est ça. C'est que le rugby français doit vraiment s'appuyer sur ses qualités d'évitement, de mouvement, parce qu'on a les joueurs pour le faire. Je pense à Lucas Tauzin. Voilà, on n'a pas besoin d'aller chercher des ailiers au Fidji pour avoir de bons ailiers. Il y en a la preuve. Et donc, je pense qu'il faut ces trois équipes, c'est un peu bête à dire, mais forment un peu la locomotive de ce que le rugby français doit faire. Quoi.
Et d'ailleurs, sur ces trois clubs français, donc on le rappelle, le Stade Toulousain, c'est pour la Champions Cup, on va dire la grande Coupe d'Europe. Il y a la plus petite Coupe d'Europe, mais c'est pas négligé, bien évidemment, pour Clermont et La Rochelle. Les deux clubs, les deux premiers du top 14, c'est-à-dire le Stade Toulousain et Clermont, sont en demi-finale de Coupe d'Europe. Est-ce finalement une logique de les voir dans le dernier carré d'une compétition européenne?
Alors oui, c'est logique parce que Clermont qui évolue, alors si je puis me permettre, à l'échelon inférieur avec cette petite Coupe d'Europe, on a vu Clermont durant les dernières années.
C'est la Ligue Europa du rugby,
Atteindre quand même demi-finales ou des finales de Champions Cup, donc c'est normal qu'ils écrasent tout au niveau inférieur. Moi je pense que c'est pas facile de comparer l'équipe de France avec que des joueurs français et des clubs comme Toulouse, comme Clermont, comme La Rochelle. Alors un petit peu molle sur La Rochelle parce qu'ils ont quand même pas mal de joueurs français et ça c'est super pour la formation française. Mais non, moi je pense que c'est pas la peine. C'est compliqué de comparer. On peut donner l'exemple de Paris aussi. Il y a très très peu de joueurs français qui jouent à Paris. Je vois que vous
il y a trois champions du monde. Ça suffit.
Il y a trois champions du monde, mais sur 11 le ratio est pas.
On est d'accord.
Et pas énorme. Non, moi je pense que c'est pas. C'est difficile. De toute façon, les clubs français ont souvent brillé en Coupe d'Europe. On l'a vu avec Brive, avec Colomiers, avec Toulouse, avec le Racing, avec Clermont, avec le Stade français dans les années 2004-2005. L'équipe de France n'a jamais été une excellente et une super nation, en tout cas depuis les années 2010, dans le monde du rugby. Donc je pense que faut pas comparer, mais ouais. Je suis d'accord avec mes camarades, il faut s'appuyer sur ce vivier français et ces clubs qui proposent du jeu pour baser le futur du rugby français, ça c'est sûr.
Et Toulouse est encore en lice pour réussir le doublé comme il l'avait fait en 96, un doublé qui est extrêmement rare, c'est-à-dire top 14 plus Coupe d'Europe, il va falloir battre le Leicester, on l'a dit. Je vais me faire l'avocat du diable, messieurs, vous allez peut-être me taper sur les doigts, je vous autorise. Est-ce finalement pas facile d'avoir trois clubs français en demi-finale d'une Coupe d'Europe dans deux compétitions où 12 clubs français prennent part, 12 sont au départ, ouais. Sur la ligne de départ, avec seulement 6 pays représentés. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, j'espère. Près, oui. Mais voilà, par exemple, si on compare avec le handball ou avec la Ligue des champions de handball ou la Ligue des champions de foot, il y a seulement 3-4 clubs d'un même pays sur une dizaine, une quinzaine de clubs européens. Là, c'est plus restreint.
Moi, je pense que c'est non, c'est pas facile.
Excusez-moi de vous couper. Sans minimiser, les performances du Stade, de La Rochelle, des deux Clermont, bien évidemment.
Contrairement au foot avec la Ligue des Champions, où nombreux sont les clubs qui placent la Ligue des Champions comme un véritable objectif de saison. Moi, je vois peu de clubs français, surtout en Champions Cup, qui mettent leur équipe type à chaque match et qui donnent tout et qui font de cette Coupe d'Europe une priorité. Bon, on sait que le Racing l'a fait, mais là, ça va être un petit peu compliqué pour cette saison. Mais non, c'est pas forcément facile parce qu'il y a des grosses équipes, même s'il y a que 6 pays représentés. Quand on voit les clubs écossais, Édimbourg, Glasgow, des excellents joueurs, les clubs anglais, les clubs irlandais, c'est compliqué.
Maxime Brossard.
Oui, il faut dire aussi que la Coupe d'Europe en rugby, vous l'avez dit, c'est le Stade Toulousain qui l'a gagné en 96, c'était la première édition.
Oui,
donc comparé au football, il n'y a pas cette histoire aussi de cette grande tradition de Coupe d'Europe. Il va falloir, je pense, encore quelques années. Et là, on voit que d'année en année, cette Coupe d'Europe prend un peu plus d'importance aux yeux des instances françaises et des clubs français. Je pense qu'il faut que ça se développe encore plus et ça va aller dans le bon sens. Je pense que ça va vraiment grandir et prendre de l'importance, cette Coupe
d'Europe. Et pareil, pour faire une comparaison avec le football, Emiliano Sala, l'attaquant de Liverpool, disait « Moi, je veux gagner la Ligue des Champions, mais mes supporters de Liverpool veulent gagner la Première Ligue, le championnat anglais. » C'est un peu ce qui se passe en France. On entend, et c'est le cas avec le Stade Toulousain qui est encore en course dans deux compétitions. On entend souvent dire « Je préfère être champion de France que d'être champion d'Europe. » C'est dingue quand même.
Après, moi, je pense que c'est une histoire de culture. Et il y a vraiment, je pense, un mythe autour de la Première Ligue, autour du bouclier de Brennus. Quand vous interrogez des supporters parisiens, ils vont vous dire la Ligue des Champions parce que Paris est un club relativement neuf avec des ambitions sur la Ligue des Champions.
Un supporter de Sochaux, il va vous dire la Ligue 1, évidemment.
Oui, tout à fait. Mais après, quand vous allez voir un club un peu plus ancien, un peu plus mythique, je pense à Toulouse, je pense à Lens, en championnat de France... Bon, Sochaux, on va pas en parler, mais vous connaissez les raisons.
Voilà.
Voilà. Mais voilà, c'est juste une question. C'est juste une question, d'histoire, je pense.
Mehdi Guillonneau, pardon.
Une chose qui dessert aussi peut-être la Coupe d'Europe, c'est tout simplement le fonctionnement du rugby. Ouais. C'est-à-dire que ça ne peut pas s'ouvrir pour l'instant que ça, le rugby. Et
c'est vrai.
C'est juste physiquement, donc on est obligé de resserrer avec beaucoup d'équipes. C'est pour ça que toutes les équipes françaises participent aux Coupes d'Europe.
Il suffit d'être maintenu en top 14, on l'explique. Exactement. Pour nos auditeurs. C'est un top 14, donc bien évidemment, 14 équipes. Il y en a 12, les deux qui ne participent pas, ce sont les promus, ou voire le barragiste pour le top 14. Donc voilà, tout le monde, tu es maintenu en top 14, tu es européen. C'est comme si l'année dernière, Toulouse 18e. Et en Ligue Europa, quoi. Ouais. C'est pareil.
C'est exactement ça. Voilà, la difficulté physique de ce sport fait qu'il a du mal à s'ouvrir. On voit quelques équipes russes en Challenge Cup. On voit des équipes roumaines qu'on ne voit pas encore, malheureusement, dans la grande compétition parce que ça serait presque pas possible. Quoi. Ils prendraient 80 buts à chaque fois et c'est trop compliqué pour eux. Quoi.
C'est dangereux.
Maxime Brossard.
Oui, non, mais tout à fait d'accord. Puis après, par contre, je voulais revenir sur le fait qu'à partir des phases finales, je suis pas, par rapport à une Ligue des champions de foot, je pense que le panel est aussi intéressant. Quoi. On retrouve souvent les mêmes équipes, finalement.
Et c'est surtout un seul match.
Ouais, c'est surtout un seul match. Et puis en fait, après, on retrouve un peu comme au foot, finalement, quand vous regardez les tableaux, finalement, souvent, vous retrouvez les mêmes équipes. Quoi. Donc là, c'est pareil pour le rugby. Donc je pense que, oui, au niveau des phases de qualification, c'est des phases de groupe, c'est pas forcément évident pour pouvoir ouvrir à plus de monde, mais après ça ne rend pas la compétition moins intéressante, quoi, parce que dès qu'il y a des matchs comme on a pu voir ce week-end, voilà, tout le monde a dit ce match du Stade, j'ai du mal à m'en remettre et tout, parce que c'était des matchs magnifiques quand même. Après, moi, j'ai poussé un peu plus, je me suis intéressé, j'ai essayé de regarder, j'ai regardé Leinster Ulster, j'ai regardé un peu Saracens Glasgow, et c'est vrai que c'était incroyable le niveau de jeu, il était époustouflant.
Pour vous qui avez été sportif de très très haut niveau, bien évidemment il n'y a aucune compétition à négliger. voyez des joueurs comme le Stade Toulousain ou même comme Clermont qui sont encore sur deux tableaux, dans leur tête ils se disent pas faut choisir une compétition plus qu'une autre, ou on se dit hey, on est sur deux compétitions, on va au bout sur les deux? Est-ce qu'on peut choisir quand on est sportif de haut niveau?
Ah, moi je suis pas dans cette optique là, donc on fait les deux.
On fait les deux.
Bah oui, si on s'est engagé sur les deux, on joue les deux. J'ai du mal à me dire il y a une compète où je vais lever le pied pour pouvoir me préparer à une autre, donc non.
Justement, c'est une mauvaise préparation, ouais. Lever le pied.
Ouais, ouais. Je considère si on s'est engagé dans les deux, c'est qu'il faut faire les deux à fond. Et en même temps, telle compétition va servir peut-être de préparation pour la compète d'après. Donc, donc voilà, donc, par exemple, pour les Toulousains, le top 14 va leur servir après pour... Le match contre l'Ancester, peut-être. Et,
oui, voilà. Donc, voilà. C'est un entraînement de très haut niveau.
Oui, voilà. C'est un entraînement de très haut niveau, mais à pas négliger. Il faut faire les deux.
Timothée Rouvière.
Et pour rebondir sur le stade, parce que voilà, moi, je suis Toulousain de cœur, je pense vraiment, vraiment qu'ils ont les joueurs et surtout la motivation pour aller au bout. Parce qu'on voit que, quels que soient les joueurs qui sont utilisés par Hugo Mola, c'est aussi performant. Ouais. Il y a autant de jeux développés. C'est magnifique.
En 30 secondes, Mehdi Guillonneau, est-ce que finalement, parce qu'on entend souvent Maxime Brossard nous dire dans l'émission depuis cette année, nous dire bon, le top 14, c'est vraiment pas trop ça par rapport au championnat anglais, écossais, irlandais. Finalement, ce top 14, il est pas si mal que ça. Ou c'est trompeur, justement?
Non, c'est pas trompeur, mais comme il le disait notamment tout à l'heure, c'est les équipes qui jouent qui sont là. Donc c'est ces équipes-là qui sont récompensées, qui vont un peu à contresens des autres équipes du top 14. Et c'est ça qui est génial et qui donne l'exemple, comme l'a dit Maxime. Et on espère qu'on verra ça de la part de toutes les équipes du top 14 en Coupe d'Europe et même en championnat.
Les demi-finales de la Coupe d'Europe pour la Champions Cup, ce sera le 20 et 21 avril. Saracens, Munster et Leinster, Stade Toulousain. Pareil, c'est toujours en avril pour le Challenge européen, pardon, avec Clermont contre les Anglais d'Harlequins et le Stade Rochelet contre les Sharks. Voilà, on espère voir des clubs français en finale de Coupe d'Europe.
On va pas se mentir, on risque d'avoir peut-être une finale franco-française vu que les deux reçoivent, et on risque d'avoir un vainqueur au moins de la Challenge Cup, je pense, français en Coupe d'Europe. La grande, ça sera peut-être trop compliqué.
Affaire à suivre. Merci messieurs, dans moins de 4 minutes, nous parlerons de notre invité, Emily Andeola, tout de suite.
Always had a feeling I was gonna be there.
C'était Panic at the Disco sur Radio Présence.
Sportez-vous bien. L'invité.
Ça a été Panic at the Plateau aussi.
On parlait du stage. On était en train de discuter. On avait un débat après le débat sur le Stade Toulousain. Et Grégoire, qu'on salue, notre réalisateur, qui nous a dit 5 secondes. Donc c'est pour ça qu'on était un peu en panique. C'est le moment de parler de notre invité. Notre invité est championne olympique 2016, championne du monde par équipe. Elle est également double championne d'Europe. Elle est Émilie Andéol, native de Bordeaux, mais un terme à sa carrière en août 2018 et enseigne maintenant son sport aux enfants bordelais, principalement. Émilie, rebonsoir.
Rebonsoir.
Est-ce que pour démarrer, on va en parler, parce que quand on pense judo, on pense
Teddy Riner.
Voilà. Est-ce que vous êtes la seule personne, en tant que championne olympique, championne du monde, championne d'Europe, capable de battre Teddy Riner et de ne pas avoir peur de...
C'est osé la question là quand même.
Et de ne pas avoir peur de Teddy Riner.
Pas avoir peur, oui. De le faire tomber, non, il faut pas exagérer quand même.
C'est si compliqué de ça.
Ah oui,
de
non,
faire
non,
tomber.
C'est très très compliqué. Ça m'est arrivé au début de faire avec lui quand j'ai commencé à faire avec les garçons. J'ai dû faire une ou deux fois. Et après, j'ai arrêté.
Il se vexe.
On va dire ça. C'est ça, oui. Il se vexe, il supporte pas que je le fasse tomber à chaque fois. Non, non, c'est vraiment compliqué. Et comme je lui dis, à lui, ça lui sert à rien. Et à moi, là, c'est même
c'est,
pas.
C'est énorme.
C'est déjà un exploit parce qu'il y en a plein qui ont essayé, qui n'ont pas réussi quand même.
Oui,
dans sa catégorie, etc. Donc,
oui, oui, non, 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 non. Oui. Effectivement, c'est déjà un exploit que j'arrive à faire avec lui. Donc, c'est pas possible. Il est encore plus maintenant. Maintenant, il pose la main sur moi. Je suis con.
C'est fini. C'est fini. Le judo, une énorme carrière dans le judo. Comment avez-vous commencé le judo? Comment est venu le judo?
Ben, c'est à l'âge de 5 ans par ma mère. En fait, elle voulait que je fasse une activité.
Comme moi.
Ouais. Voilà, on a dépendu. Donc, du coup, elle voulait que je fasse du judo parce que je voulais faire de la danse. Elle m'a dit OK, mais bon. Elle n'était pas trop chaude, donc elle me dit oui, mais ça serait bien que tu fasses un autre sport et tout. Donc, vu que j'habitais à Marcheprime, il n'y avait pas de grande activité. Elle me dit, mais tu feras du judo. Alors que personne dans ma famille faisait du judo. Mais donc, elle m'a dit, allez, on va sur du judo. Et en fait, j'ai adoré, j'ai apprécié. En plus, je gagnais les garçons. Donc, non, mais véridique. Donc, vu que je gagnais les garçons, ben, je continuais et voilà.
Et c'est à quel moment que c'est devenu un objectif de faire carrière dans le judo? C'est venu assez rapidement?
Non, comparé à des...
Ça vient tout seul?
Oui, ça vient au fur et à mesure, mais comparé à mes jeunes que j'entraîne, parce que je suis plus sur la catégorie ado qu'à des juniors seniors qui justement veulent faire du haut niveau, eux ils le savent dès cadet, voire même minime, voire même Benjamin qui veulent être champion. Moi pas du tout. moi ça a été vraiment sur le temps en fait. C'est voilà, je faisais du judo, j'aimais bien, en plus j'étais avec mes amis, je gagnais les garçons. Donc je continue pour ça. Après c'est vrai qu'après on m'a demandé de rentrer dans une première structure, une classe départementale. J'ai dit ah ok, comme ça je serai avec mes potes.
Oui.
Voilà, c'était même pas pour faire du haut niveau, c'était pour être avec mes potes.
Ouais, donc c'est venu vraiment tout seul.
Ah oui, c'est vraiment venu tout seul et sur le tas en fait, parce qu'après pareil je faisais mes résultats, mais moi je me rendais pas forcément compte. Parce que voilà, on me disait ah, tu vas au championnat de France, je disais ok, on va au championnat de France. Bon voilà.
Oui, c'est une compète quoi.
Oui voilà, c'est une compète et donc première fois je fais mon podium. Après, on me dit, ah, t'es invité à l'INSEP. Je dis, l'INSEP? Mais c'est quoi l'INSEP? Non, c'est pour vous dire le niveau de. Voilà.
C'est le pôle du sport français. Voilà, c'est le gratin du sport français, toutes disciplines confondues.
Toutes disciplines confondues, c'est ça. Et moi, je dis, ah, mais je sais pas qu'est-ce que c'est l'INSEP. Effectivement, je connaissais David Douillet. Voilà. Mais sinon, les autres judokas de l'équipe de France, je les connaissais pas. Ça, c'est pas bien, mais je les connaissais pas. Donc, voilà. Après, on m'a dit, vis-à-vis de stage, ah, tu combats bien et tout. Ça serait bien que tu rentres l'année prochaine à l'INSEP. J'ai dit bon, ben ok.
Il faut y aller. Quoi.
Voilà. Oui, parce que mon entraîneur m'avait dit on ne refuse pas l'INSEP, donc j'ai dit ok. Et après, c'est effectivement une fois que j'étais à l'INSEP,
là, c'est,
voilà, que je me suis dit ah ouais, tu peux faire quelque chose.
Et c'est devenu, finalement, il fallait aller à l'INSEP parce qu'on va le répéter, c'est un palmarès énorme. Plusieurs fois championne de France, double championne d'Europe, championne du monde par équipe et le gratin, le Graal en 2016. On a tous en mémoire et quand on s'est vu pour la première fois, je vous l'ai dit, mais c'est vrai que j'ai cette image et je pense qu'on a tous cette image de vous sur le podium à Rio en train de pleurer. C'est resté. C'est resté cette image.
Ah ben oui, moi à la fin quand je suis sorti du podium, j'ai dit oh la honte. T'as pleuré devant la France entière et devant le monde entier. Voilà, surtout. Donc non, c'était vraiment beaucoup d'émotions pour moi. C'est que en fait quand ils nous ont appelés donc pour aller jusqu'au podium, déjà là j'ai vu ma famille en face de moi. Ça a commencé à monter et là je me suis dit mais mon Dieu, tout ce que tu as fait en amont. C'est,
on repense à tout, les sacrifices justement, de monter à l'INSEP, les sacrifices.
C'est ça, on repense à tout ça et je me dis, mais ça n'a pas été pour rien, ça a payé. Et ouais, il a fallu que tu en passes par là, par les périodes de doute, les moments compliqués, pour justement que ça te forge un caractère et que tu arrives à être champion olympique.
Il n'y a pas de titre mondial individuel, mais on est d'accord que le titre olympique englobe vraiment tout.
Oui, oui, effectivement, j'aurais pu arrêter ma saison, ma carrière même sans être championne olympique. J'aurais été contente de ma carrière étant deux fois championne.
Vous attendez à de telles performances ?
Sincèrement, je m'attendais à être médaillée olympique. Par contre, je venais vraiment, pour
le,
la médaille.
Le bronze, quoi. Enfin, au moins
le bronze. Quand j'ai... Parce qu'avant les Jeux, vu qu'on a un classement... On peut savoir, avec, je savais que j'étais tête de série, on peut savoir à peu près le tableau. Qui on va prendre en quart, en demi, et dans l'idée, en phase finale. Si, voilà, donc je savais que j'étais dans le même parti déjà que la Tunisienne que j'avais jamais battue en quart. Donc déjà, pour moi, c'était un challenge. Parce que j'ai pris cinq fois, j'ai perdu contre elle. Donc c'était ma bête noire, donc ça, c'était déjà un challenge. Après, je savais que j'étais dans la partie de la Chinoise championne du monde. Et qu'en finale, je pouvais me prendre la championne olympique, parce que je voyais pas... Comment ne pouvait pas être en finale. Donc voilà. Donc je savais que j'avais un tableau
compliqué,
très compliqué. Donc avec mon entraîneur 2 mois avant, il m'avait dit bon, tu sais à peu près qui tu vas prendre. Maintenant on va travailler sur ça. Déjà on va travailler sur ta Tunisienne qui voilà c'est ta bête noire. Donc on va faire de la répétition qui est la base du judo, beaucoup de répètes. Et voilà pendant 2 mois j'ai mangé Jeux Olympiques, tous les combats à voir.
Et justement les Jeux Olympiques ça a changé votre vie et en quoi ça change votre vie même actuellement?
Oui ça a changé ma vie parce que déjà
le regard des gens.
Oui le regard des gens mais même dans le monde du judo quoi et même dans le monde sportif avoir le titre olympique c'est pas c'est
voilà il y a
c'est...
rien au-dessus
c'est... voilà il y a rien au-dessus pour le sport amateur c'est le Graal c'est voilà c'est quelque chose d'énorme donc c'est une concrétisation pour moi et après à côté de ça oui c'est que maintenant j'ai une notoriété. Je fais beaucoup plus de médias et donc ça a changé quelque chose vis-à-vis des gens, même des jeunes que j'encadre, des enfants. Voilà, les gens que je rencontre disent « Oh mon Dieu, on rencontre une championne olympique, la chance et tout ». Voilà, donc c'est quelque chose d'énorme. Donc oui, ça a changé pour moi, oui.
Vous avez arrêté en août 2018. Justement, ce titre olympique, il est pour beaucoup de se dire « Il faut répéter encore les efforts ». Pourquoi on me demande de répéter les efforts alors que je suis championne olympique? Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi?
Non, après moi, voilà, je l'avais dit une fois que j'étais championne, je suis devenue championne olympique, j'étais partie pour devenir justement championne du monde individuel. Parce que je me suis dit, bon, t'es sur ta lancée, t'es sur une bonne lancée, on y va. Sauf qu'avant les Jeux, j'avais un problème de genou. J'avais déjà l'arthrose à un genou. Après les Jeux, j'ai eu de l'arthrose sur les deux genoux.
Donc
déjà sur un genou, c'est compliqué parce qu'on voilà, on a au moins une jambe valide, on peut s'appuyer, se reposer sur celle-là. Le problème, c'est qu'après les Jeux, j'ai décompensé. Et sauf que j'ai eu les deux genoux. Donc après, à un moment donné, je ne savais plus sur quel pied marcher. Donc c'était très compliqué. Des fois, on dirait une mamie qui était en train de marcher dans la rue. Les gens me disaient, ça va? J'ai dit, oui, c'est juste mon genou, mes genoux qui... Voilà. Donc il y avait un problème déjà physique. Et après, c'est vrai que mentalement, s'y remettre, parce que j'avais plus la même vision vis-à-vis des autres, en fait. Maintenant, j'étais attendu. J'étais attendu de la part des journalistes. J'étais attendu de la part
des
adversaires. Mais c'était impressionnant. C'est que... Mon premier stage après les Jeux, j'ai cru que j'étais la fille à battre. Ah ouais.
Et c'est déstabilisant.
Ah ouais, c'est très déstabilisant, sachant que moi je venais au stage pour dire ah c'est un stage de reprise, si je tombe c'est pas grave.
Non, si c'est grave.
Ah ben vu les filles comment elles me prenaient, oui c'était grave. Ouais. Ah oui. Donc après bon au bout de 2 jours je me suis rebellé, je me suis dit ça va pas être possible, je vais pas me laisser faire, bon bien comprendre.
Ouais.
Mais ouais c'était très compliqué après à gérer et sincèrement. Même les médecins, ils savaient plus comment. Même après, ils m'avaient dit, t'es sûr tu veux continuer et tout. J'ai dit oui. Moi, je veux justement, comme je disais tout à l'heure, je me sentais pas prête pour arrêter. J'ai dit non, moi, je veux continuer. Je suis dans la bonne dynamique, il y a pas de problème. Mais sauf qu'un an après, comme ça, après, je me suis dit ça va pas être possible.
Est-ce qu'on vit du judo? Est-ce que Teddy Riner est l'arbre qui cache la forêt? C'est ça l'expression?
Teddy,
c'est bien ça.
Teddy vit très bien du judo.
Oui.
Voilà.
Et est-ce qu'on vit bien du judo quand on est champion olympique avant, après? Ou est-ce que Teddy Riner, c'est vraiment l'exception dans ce sport?
Après, oui, Teddy, l'arbre qui cache la forêt, mais après, je vais pas me plaindre. Moi, j'en ai bien vécu avant. Dans le sens où, comparé à d'autres qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, moi, c'est... je vivais très bien ma vie, donc je vais pas me plaindre sur ça. Mais c'est vrai qu'après, niveau sponsor, une fois, je pensais qu'en devenant champion olympique, niveau sponsor...
Ça allait être plus facile.
Ça allait être plus facile, et là, c'est... Ben non. Au final, non, parce qu'il a été dit que. Et que pourquoi avoir une autre personne ? En plus, voilà, je suis une féminine, donc...
Ça joue beaucoup ?
Bah oui, le sport féminin n'a pas la même visibilité et même notoriété que le sport masculin. Donc ça y joue, tout ça, il faut prendre en compte tout ça. Donc voilà, ça a été un peu plus compliqué, mais bon, après, on fait avec. Et d'un côté, comme je dis, je ne fais pas du judo pour ça, donc...
Maxime Rossa.
Ouais, moi, c'était pour revenir par rapport aux blessures que vous avez eues. C'était de savoir si finalement, après la carrière, en arrêtant, vous vous attendez à souffrir un peu maintenant, avec l'âge. Enfin, est-ce que ça va pas être compliqué ? Comment ça se passe ? Comment on gère le corps qui a été un peu meurtri par toute une carrière de judoka ?
Ah ben, c'est compliqué parce que encore maintenant, j'ai mal au genou. Ouais. Là, je suis dans une période, je croise les doigts, ça va bien.
Ça va.
Ça fait 3 mois que j'arrive à gérer mes douleurs, donc c'est génial. Mais ouais, c'est compliqué, mais je le savais. Hein. De toute façon, les médecins m'ont prévenu. Ils m'ont prévenu. Je retarde le plus. De toute façon, je suis jeune, donc je peux pas me faire poser une prothèse de genou. Mais dans l'idée, c'est ce qui m'attend, quoi. Oh,
okay.
Voilà, c'est ce qui m'attend, c'est d'avoir une prothèse de genou. On va éviter d'en avoir sur les deux genoux. Ouais. Mais voilà, c'est ça.
Ouais.
Donc je suis prête. Et c'est pour ça que d'un côté, je voulais pas aussi continuer plus.
Ouais.
J'ai déjà donné mon corps pour devenir championne olympique. Je finis dans un état potable. Je veux pas non plus aggraver encore plus la chose. Ouais. Parce qu'après, c'est handicapant. Il me reste 40 ans, 50 ans à vivre. Donc,
ça va être dur.
Voilà, on va éviter de tirer trop sur la machine quand même.
D'accord.
Timothée Rouvière.
On sait que dans 2 ans, il y a les Jeux Olympiques qui démarrent à Tokyo, au judo, au Japon, au pays du judo. Pour un judoka, ça représente quoi d'aller faire les Jeux là-bas ? Une si grande compétition dans un pays aussi mythique, si je puis dire.
Ah, mais c'est quelque chose d'énorme. Là, pour les judokas, c'est dans le pays inventeur du judo. Ça sera quelque chose d'énorme. Et on aura envie d'aller shipper les médailles aux Japonais, parce qu'on va pas se mentir. Ceux qui vont dans l'idée, et pour l'instant, ils le démontrent, qu'ils veulent gagner le plus de médailles et avoir limite... un champion olympique ou une championne olympique dans chaque catégorie. Ah ouais. Franchement, il nous faut une belle démonstration parce que pour l'instant, c'est quasi ce qui se passe. Hein. À part les 4 ou 5 catégories, ils arrivent à pas en avoir, mais sinon, c'est ce qui se passe. Donc, ça va être quelque chose d'énorme. Eux, après, ceux qui veulent, eux, les Japonais, ils veulent choper en lourd. Mmh. Voilà, dans la catégorie
Teddy. Catégorie reine.
Franchement, de ce que je vois, non. Ça restera Teddy. Non, parce que... En tout cas, pour ce que je vois, le profil des Japonais, pour l'instant, je ne sens pas quelqu'un qui peut concurrencer Teddy. Et en plus, là, effectivement, Teddy ne s'entraîne pas, mais il s'entraîne, mais il ne fait pas de compétition. Oui. Là, il est en train de bien revenir, justement, à son poids de forme, comme il a été au championnat du monde, toute catégorie à Marrakech.
Mmh. Oui, donc
s'il revient à Tokyo comme ça...
Ça va le faire.
C'est pour lui.
Justement, les JO, en tant que championne olympique en titre... Est-ce que vous allez regarder ça avec un peu de nostalgie ? Il y en aura ?
Non, il n'y aura pas. Non, non, parce que comme je dis, c'était le moment. Voilà. Et déjà, je serai championne olympique et je suis toujours à vie.
Et à vie, ça.
Voilà, ça sera à vie. Ça... Effectivement, il y aura une autre championne olympique, j'espère même française. Hein,
oui,
dans
ma
catégorie, sur ça, j'ai aucun problème. Et pour moi, c'est normal. Voilà, c'était le cycle de la vie. Je suis complètement en phase sur mon arrêt de carrière. Donc, je vais... ça sera vraiment quelque chose d'énorme de pouvoir voir les Jeux de Tokyo, de vivre ça. J'aimerais bien même y être pour pouvoir vivre ça encore plus au sein de tout le monde.
Et aujourd'hui, on parle aujourd'hui,
oui.
Vous accompagnez les jeunes, vous l'avez dit, les ados. Quel message vous donnez à ces jeunes ? Comment vous faites la promotion de ce sport ?
Mais je leur dis, mais surtout en plus qu'ils me disent qu'ils veulent être champion du monde ou champion olympique, c'est surtout de travailler. Moi, comme je dis, il n'y a rien sans travail. Donc, c'est énormément de travailler. Il y aura des périodes de doute, effectivement, des périodes compliquées. Mais il ne faudra pas lâcher. Pas lâcher parce que, justement, si on a un rêve, s'ils ont le souhait de devenir champion du monde ou champion olympique, ben, il faut s'y donner les moyens. Et je suis bien passé pour le dire. Il y a eu des périodes très compliquées où même moi, franchement, je me disais, oula, comme tu es parti, tu ne feras rien. Mais j'ai réussi à me remettre en question, à voir ce qui n'allait pas. À aller chercher toujours plus loin et voilà, et ça, à un moment donné, ça a payé. Des fois, c'est vrai qu'en faisant ça, ça paye pas, mais au moins on sera allé au bout, au bout de nous-mêmes, on aura tout donné. Et c'est ce que je leur dis, c'est surtout de pas lâcher et de toujours se remettre en question pour avancer, parce que si on reste sur son petit nuage, on n'y arrivera pas.
Ils connaissent votre carrière, ils vous en parlent?
Oui, maintenant non, plus maintenant, Mais au début, oui.
Au début, oui.
Ah oui, c'était... Oh, ça t'a changé la vie. Qu'est-ce que ça fait d'être champion de la vie?
C'est de la curiosité, ou c'est vraiment de se dire... Et c'est, en fait, c'est pas à la télé, c'est possible parce que la personne est devant moi.
Bah, c'est ça, c'est ce que je leur dis. Hein, c'est, bah, au début, c'était surtout sur l'après, comme si ça avait changé ma vie totalement.
Oui,
je,
oui.
Je leur dis non, et, ça reste du judo, on va pas devenir célèbre, on n'est pas, voilà, on n'est pas Mbappé et tout ça. Non, nous, c'est voilà, c'est très, on reste très simple et c'est dans cette dynamique-là. Mais effectivement, c'est ça, comme je leur dis, c'est énormément de travail. Et effectivement, ça peut changer aussi la vie plus tard.
Merci beaucoup, Émilie Andéol.
Merci.
Merci d'avoir été avec nous. Merci, messieurs. C'est déjà, malheureusement, c'est déjà terminé. Merci à Grégoire, à la réalisation, qui nous a commandé les pizzas. Merci beaucoup. Retrouvez-nous demain dès 7h avec Rémi Soulomiak, Isabelle Oneil et Corinne Saint-Félix. À 9h, Vivante Église avec Emmanuel Pella. Bonne semaine avec Radio Présence. À la semaine prochaine.